Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 et sur le 101.7 sur Luc Andiwa. L'émission est aussi mise en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, dans le cadre des élections législatives des 12 et 19 juin de la 3e circonscription de la Drôme, nous avons aujourd'hui Marie Pochon. Bonjour.
Bonjour.
Marie Pochon, vous êtes représentante de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Et donc, vous êtes ici pour vous exprimer sur votre candidature à cette 3e circonscription en tant que députée. Avant tout, Marie Pochon, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Alors tout à fait, moi je m'appelle Marie Pochon, j'ai 32 ans, je suis fille de vignerons, d'élus locaux dans la Drôme. J'ai grandi dans la Drôme et j'ai envie de me battre effectivement pour ce territoire auquel je tiens. J'ai été militante ces 10 dernières années dans un certain nombre d'associations et notamment dans le mouvement climat. J'ai été une de celles qui a fait condamner l'État français en justice parce que le gouvernement actuel n'avait pas appliqué ses propres lois en matière climatique. Vous en avez sans doute entendu parler, c'était l'affaire du siècle. Les conséquences de cette inaction climatique, on les voit bien sur notre territoire et on va sans doute l'aborder tout à l'heure aussi, mais c'est la sécheresse, c'est l'eau qui vient à manquer et qu'il nous faut aujourd'hui partager et protéger. Et je pense qu'on est aujourd'hui, en 2022, dans une situation où nous devons et nous pouvons aujourd'hui agir, parce que vous l'avez dit, je suis la candidate de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Avec ce rassemblement, je veux qu'on refasse de la politique dans notre pays et dans notre département. Je veux qu'on débatte, qu'on délibère autour d'un cap clair et de propositions concrètes pour que les choses changent. Je serai une députée d'action pour le climat, pour les services publics, pour accompagner l'évolution de notre modèle agricole, pour l'école publique et républicaine, et pour que chacun et chacune vive dignement et avec l'horizon de jours meilleurs.
Ça, c'est la principale présentation par rapport au territoire.
Alors tout à fait, moi je suis effectivement originaire de la Drôme, comme je le disais tout à l'heure. Je suis désormais installée à Die. C'est un territoire que je défends, auquel je suis attachée encore plus parce que j'ai aussi dû le quitter. Je suis de cette jeunesse de la ruralité qui part souvent à 18 ans quand elle en a l'occasion pour aller poursuivre ses études supérieures et qui a beaucoup de difficultés à pouvoir notamment continuer à vivre ici sur ce territoire du fait du manque de services publics, du fait du manque d'infrastructures de transport, du fait du manque aussi d'opportunités professionnelles et des prix du foncier qui ne vont qu'en s'accroissant. Donc c'est tous ces sujets-là que je souhaite défendre, notamment dans le Divois bien évidemment, mais aussi pour l'ensemble de la circonscription qui est très vaste, l'une des plus vastes de France. Donc voilà mon engagement dans cette campagne.
Et cet engagement, ça se passe dans une certaine constance sur tout le territoire de la 3e circonscription, ou alors il y a des secteurs où vous vous sentez plus... affiliés.
Alors on va partout. On a monté une belle équipe qui est vraiment représentative de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. L'ensemble des forces politiques, mais aussi des forces citoyennes sont mobilisées autour de cette candidature. On sent une véritable dynamique. Il se passe quelque chose, comme on me le dit souvent, sur les marchés et lors des porte-à-porte. Et effectivement, on est l'une des seules candidatures, une des seules campagnes qui va sur le terrain. On va à la rencontre des gens, on va les rencontrer. On prend en compte leurs aspirations, leurs problématiques, ce à quoi chacun peut croire et espère aussi, parce qu'on sent qu'aujourd'hui il y a un besoin de rupture et il y a une possibilité là de faire converger l'ensemble de ces espoirs dans une candidature pour porter pour la première fois en 20 ans une députée de gauche, une députée écologiste, une députée d'action à l'Assemblée nationale. Et ça, ce serait une véritable force pour ces territoires qui agissent déjà. Et là, je veux mentionner aussi l'action des élus locaux, des associations, des citoyennes, des citoyens qui sont organisés partout sur le territoire et qui font de cette ruralité, loin d'être une seconde zone, loin d'être une ruralité déclassée, en fait une ruralité qui est bouillonnante d'initiatives, de mobilisation. Et c'est vraiment ça que je souhaite porter dans cette élection.
Vous parlez de rupture. Quel type de rupture envisagez-vous par rapport à une politique nationale ou même plus locale ?
Alors, je pense Je pense bien évidemment à une rupture d'un point de vue national. Le mandat de député est bien un mandat qui est national, même si on est élu par un certain nombre de concitoyens sur une circonscription en particulier. Je pense qu'effectivement 2022 doit être un point de rupture pour notre pays de manière globale. Et ça, ça aura bien évidemment des impacts aussi sur les habitantes et les habitants de notre circonscription. Là, je peux parler de rupture en matière climatique. On sort d'un quinquennat où le gouvernement a été condamné par deux fois pour inaction climatique par les tribunaux. Et on voit aujourd'hui une loi climat et résilience qui a été adoptée l'an dernier et qui n'est pas à la hauteur des enjeux, selon même les dires du Haut Conseil pour le climat, qu'on ne peut pas accuser de wokisme sur la question. Je veux parler de rupture en matière d'organisation des services publics et de justice sociale. Aujourd'hui, on a 8 millions de personnes dans notre pays qui sont dépendantes de l'aide alimentaire. On a près de 10 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. On a des millions de personnes aujourd'hui dans notre pays qui vivent dans des passoires thermiques. Et ça, c'est juste inacceptable pour la cinquième ou la sixième puissance mondiale qu'est la France. La France a des richesses. Aujourd'hui, il faut mieux les répartir et, avec une révolution fiscale adaptée, permettre que chacun, chacune puisse vivre dignement dans notre pays. Et la troisième rupture qu'il nous faut engager, c'est la rupture démocratique. On sort de 5 ans d'une sorte de mépris démocratique de la part d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, d'une verticalité jupitérienne, comme elle a été qualifiée. On a vu le mépris qui avait été adressé aux doléances, aux millions de doléances qui avaient été déposées pendant le grand débat national suite aux Gilets jaunes, puisque toutes ces doléances-là sont dans les archives départementales et on n'en a jamais eu vent par la suite. On a vu le mépris affiché aussi aux travaux de la Convention citoyenne pour le climat, qui a été piétinée largement dans l'élaboration de la loi climat et résilience. Aujourd'hui, on nous annonce une convention nationale pour la refondation, un CNR. Je crois qu'il ne nous faut pas être dupes par rapport à ces annonces 3 jours avant le premier tour de ces élections législatives et qu'il nous faut refonder notre modèle démocratique. Et ça, ça passe par la 6e République, ça passe par amener plus de délibération à l'Assemblée nationale et c'est ce que nous proposons avec la nouvelle Union populaire. Et ça passe aussi par un nouveau lien avec les citoyens et les citoyennes. C'est ce que nous faisons déjà dans le cadre de cette campagne, avec la mise en place d'assemblées citoyennes partout sur les territoires. On en a fait 4 dans le cadre de la campagne. On continuera à le faire par la suite. L'idée, c'est de penser le mandat d'une députée collectivement et que la loi ne se fasse pas dans des chambres closes à l'Assemblée nationale, mais bien qu'elle se fasse avec les citoyennes et les citoyens.
Par rapport à l'afflux de la pauvreté parmi la population française, quelles sont vos premières résolutions à cette rencontre ?
Alors on le voit effectivement, la pauvreté et la précarité rampent dans notre pays. Et en même temps, on voit aussi les plus riches qui amassent de plus en plus d'argent. Aujourd'hui, c'est 5 personnes les plus aisées de France qui ont autant de capital que 40% des Français et des Françaises. Donc effectivement, il nous faut changer cela. Il nous faut investir pour le pouvoir d'achat, pour le pouvoir de vivre de celles et ceux qui habitent notre pays. Ça passe par un meilleur partage des richesses et ça passe aussi par une juste rémunération du travail. Le travail doit payer. Aujourd'hui, ce qu'on propose avec la nouvelle Union populaire, c'est une revalorisation du SMIC dès notre arrivée en majorité à l'Assemblée nationale, donc dès le mois de juin, à 1500 euros net. Ce qui pourra entraîner par la suite, et ce qui devra entraîner par la suite, avec des négociations salariales branche par branche, l'augmentation de tous les salaires jusqu'à 4000 euros. Donc ça, c'est la première mesure que nous proposons. Nous proposons par ailleurs, en termes de revenus, que plus personne en France ne vive en dessous du seuil de pauvreté. C'est les 10 millions de personnes que je vous mentionnais tout à l'heure. On propose finalement, par la revalorisation des minimums sociaux, par la revalorisation des retraites et des travaux précaires, de permettre à chacun, chacune, de vivre avec au moins 1063 euros, c'est-à-dire le seuil de pauvreté. Par la suite, le pouvoir d'achat, ça passe aussi par un blocage et la baisse des prix. Nous baisserons et nous bloquerons les prix des produits de première nécessité, le carburant, l'alimentation, l'énergie. Et nous mettrons en place la gratuité, notamment la gratuité réelle pour l'école publique. Aujourd'hui, on a un certain nombre d'élèves qui ne sont pas traités à la même enseigne à l'école. Donc ce que nous proposons, c'est effectivement la gratuité de l'école. Nous proposons, en plus de cela, la suppression de la TVA, par exemple, sur les produits biologiques et locaux, pour permettre à chacun et chacune de s'alimenter sainement. Parce que ça doit être un droit, le droit à la santé, le droit à la vie digne. C'est un droit que nous voulons reconquérir et redonner à chacun et chacune.
L'écologie, vous proposez le passage à 100% d'énergie renouvelable. Il s'agit du solaire, de l'éolien. Entre autres, existe-t-il aussi d'autres systèmes qui seraient à exploiter ou à découvrir ?
Alors effectivement, ce qu'on propose en premier lieu sur la transition énergétique, c'est d'abord le débat, la concertation. Il s'agit quand même de notre avenir énergétique pour les 50 prochaines années. Et ça ne se décide pas par la décision d'un seul homme, comme on a pu le voir ces derniers mois, finalement, puisqu'Emmanuel Macron a relancé la filière nucléaire en France sans consulter personne. Nous, ce que nous proposons, c'est un débat national, non seulement à l'Assemblée nationale, mais avec l'ensemble des Françaises et des Français, pour pouvoir déterminer ensemble notre avenir énergétique, parce que c'est trop important pour prendre la décision seule. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose en matière de transition énergétique, puisqu'il faut qu'on pense notre sécurité énergétique, il faut qu'on pense aussi cette sécurité énergétique au vu des impacts du changement climatique qui sont de plus en plus présents sur nos territoires. Et là, je parle très spécifiquement de la sécheresse et je parle très spécifiquement aussi du débit du Rhône qui pourrait bien descendre d'ici à 2080 de 40 à 60%, alors même qu'on crée, on est en train de construire un canal du Rhône dans le sud du département pour pouvoir venir alimenter en eau des exploitations agricoles. Aujourd'hui, il nous faut penser la résilience de notre modèle qui est basé encore, qui est trop dépendant encore du nucléaire. Et donc, face à ce défi-là, ce défi énergétique, ce que nous proposons, c'est d'abord de miser sur la sobriété, ensuite sur l'efficacité énergétique et enfin, effectivement, sur le développement des énergies renouvelables. La sobriété, je la mets en premier parce que c'est bien là que nous pouvons aujourd'hui investir. C'est là aujourd'hui où nous pouvons créer le plus d'emplois et c'est aussi là où nous pouvons apporter le plus de dignité à chacun et chacune. Là, je rapproche vraiment cela de toutes celles et ceux qui vivent encore aujourd'hui dans des passoires énergétiques. J'en ai rencontré beaucoup pendant cette campagne et beaucoup de vos auditeurs se reconnaîtront aussi dans cette situation de celles et ceux qui ont froid l'hiver, qui ont chaud l'été et qui payent des factures d'électricité qui sont mirobolantes. Donc aujourd'hui, il nous faut investir dans cette transition et dans cette sobriété énergétique. C'est un enjeu pour le climat, c'est un enjeu pour le pouvoir d'achat. Nous, ce que nous proposons avec la nouvelle Union populaire, c'est la rénovation de 700 000 logements par an pour permettre à chacun de vivre dignement et de faire face à l'enjeu climatique. Enfin, pour arriver à la question des énergies renouvelables, oui, il va nous falloir investir dans la recherche et investir dans de nouvelles formes de production énergétique. Là-dessus, on a un levier qui est fondamental et qui a été trop peu exploité ces dernières années. Je vous rappelle ici que la France est le seul pays européen qui ne tient pas ses objectifs en matière de développement des énergies renouvelables. Donc on nous parle de nation écologique, mais je pense que ça attendra encore 5 ans si on écoute Emmanuel Macron. C'est bien évidemment le sujet de l'éolien offshore. La France est le seul pays européen qui a une telle surface maritime. Et pour autant, on n'a qu'une seule éolienne offshore à date. Donc là encore, on a des promesses non tenues de la part de ce gouvernement. Là encore, avec la nouvelle Union populaire, ce qu'on propose, c'est d'investir massivement pour créer des emplois et pour créer des possibilités d'approvisionnement énergétique et de sécurité, d'autonomie énergétique. On le voit aujourd'hui. Avec la guerre en Ukraine, nous avons besoin aussi d'assurer notre sécurité et notre autonomie énergétique.
Et alimentaire également, hein, puisque les céréaliers vont être mis à contribution. Ça relève aussi de l'agriculture. Vous prenez pour une agroécologie et l'agriculture paysanne. Comment concilier les deux entre l'agriculture céréalière et donc très productiviste et voire très consommatrice d'eau et aussi cet aspect plus humain de l'agriculture avec celle de la paysannerie.
Alors effectivement, l'agriculture, c'est un enjeu majeur pour notre territoire. On est dans un territoire qui est rural, qui vit de son agriculture. Et l'agriculture, c'est une richesse pour nourrir le monde. Donc bien évidemment que l'agriculture doit est centré autour de l'humain et doit être centré autour de l'humain, puisqu'il s'agit bien d'êtres humains, de générations présentes et futures, qu'il va falloir nourrir de nos sols. Cette agriculture-là, elle est confrontée à un certain nombre de défis aujourd'hui. C'est le défi de la mondialisation, des traités de libre-échange, de la concurrence libre et non faussée. C'est le défi aussi du changement climatique. Et ça, vous l'avez mentionné, c'est le défi de la sécheresse notamment. Donc effectivement, face à l'ensemble de ces défis, les agriculteurs, les agricultrices, les organisations syndicales aujourd'hui se mobilisent. Et j'ai pu en rencontrer dans le cadre de cette campagne. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est des questions qui traversent totalement le monde agricole. Donc moi, mon travail en tant que future députée, c'est bien d'accompagner cette réflexion, d'accompagner ce développement, cette transformation de notre modèle agricole vers quelque chose qui pourra permettre de faire face aux futures sécheresses. Et ça, ça implique effectivement de se poser un certain nombre de questions d'un point de vue de l'usage de l'eau, d'un point de vue du partage de l'eau, d'un point de vue d'usage aussi des pesticides et de permettre de garder la richesse de nos terres et d'un point de vue aussi des cultures que nous avons sur nos territoires. Et donc peut-être qu'effectivement, il faut se poser aujourd'hui la question du maintien de cultures de maïs, par exemple, qui sont très consommatrices d'eau sur un territoire comme la Drôme, et plutôt peut-être investir sur d'autres types de cultures qui sont moins demandeuses. Et donc ça, c'est des réflexions que j'ai envie de mener avec l'ensemble des organisations agricoles, qui semblent tout à fait disposées pour le coup, ainsi que d'autres enjeux qui est quand même, sur la question agricole, l'enjeu de l'installation et l'enjeu du foncier. Nous, ce que nous proposons avec la nouvelle Union populaire, c'est d'aider à l'installation de 300 000 nouveaux travailleurs agricoles dans les prochaines années. Et ça, ça implique une réflexion globale sur la manière dont nous partageons la terre, dont nous partageons l'eau et dont nous rémunérons nos agriculteurs.
Est-ce que vous envisagez de modifier, quand vous dites de remettre à plat la verticalité du pouvoir, est-ce que c'est aussi peut-être amener petit à petit une certaine autonomie de gestion alimentaire pour chaque territoire ?
Alors tout à fait. Effectivement, nous proposons un autre modèle pour notre démocratie. On propose un modèle où les décisions seraient concertées, où les choses pourraient être aussi plus décentralisées, sortir de la Ve République et donc du présidentialisme qui veut que dans notre pays, tout soit géré par un seul homme pendant 5 ans à qui nous déléguons notre pouvoir et que notre droit de parole, en tout cas, serait limité à un vote tous les 5 ans. Donc effectivement, c'est des choses qu'on décline sur l'ensemble de notre programme. Et j'invite vraiment l'ensemble de vos auditrices et de vos éditeurs à aller voir notre programme en ligne. Il y a 650 propositions de rupture, des propositions ambitieuses et chiffrées qui permettent de se faire un petit peu une idée sur le travail programmatique qui a été fait par l'ensemble des forces politiques de la Nouvelle Union Populaire et de tout ce que cela pourrait changer dans nos vies les 12 et 19 juin prochains. Mais effectivement, sur la question agricole et pour y revenir, l'idée c'est, comme sur chaque sujet, de poser les bases d'une planification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'en peut plus des mesurettes non financées et non anticipées. Donc là, le dernier exemple en date, c'est bien le job dating organisé à l'Académie de Versailles, puisqu'il leur manquait 2000 professeurs. Aujourd'hui, anticipons les crises. On sait qu'elles vont arriver. On connaît la crise climatique. On connaît les crises sanitaires qui peuvent encore arriver dans notre pays. On sait la crise sociale. On sait la crise démocratique. Anticipons, c'est ce que nous disons. Gouverner, c'est prévoir. Et donc, sur la question agricole, par exemple, l'idée, c'est d'avoir une planification agricole. L'idée, c'est de poser un cap qui soit clair, qui soit cohérent. Et derrière, d'accompagner l'ensemble des acteurs pour aller vers ce cap selon leurs besoins et selon leurs spécificités. Et donc, à l'échelle des territoires, l'idée est de mettre en place des plans alimentaires territoriaux, de construire avec l'ensemble des agriculteurs, des élus locaux, des associations, des syndicats, des citoyens et citoyennes, des consommateurs, des plans d'adaptation de la production agricole selon les besoins de chaque territoire. Et donc ça, c'est quelque chose auquel je tiens particulièrement aussi. Je suis assez proche de tous ces milieux-là, de la démocratie participative et du renouvellement démocratique. Et c'est quelque chose que je porte dans ma campagne avec ces assemblées citoyennes.
Voilà, et puis aussi cette envie d'une 6e République hein, qui regroupe un peu ces conditions de décision opérées par les citoyens plutôt que par un pouvoir centralisateur. Le droit à la retraite aussi, ça aussi c'est un de vos combats, hein, un maintien de la retraite à 60 ans ou un retour du moins à 60 ans. Pour vous, cela permet quoi justement ?
Alors effectivement, on propose le retour à la retraite à 60 ans et une revalorisation de l'ensemble des retraites pour qu'elles soient à minimum au seuil de pauvreté, c'est-à-dire 1063 euros. Et si vous avez les 40 annuités, les retraites seront revalorisées à la hauteur du SMIC à 1500 euros. Puisque aujourd'hui, moi j'ai rencontré un certain nombre de personnes dans cette campagne, et puis par ailleurs, au-delà de la campagne bien évidemment, qui vivent aujourd'hui avec des retraites tout à fait médiocre, à 500, 600 euros, qui se démènent pour pouvoir vivre avec des revenus aussi bas, alors que ces personnes-là ont travaillé toute leur vie, parce que parfois il leur manque un semestre, ou parce que certains des travaux qu'ils ont pu effectuer, certains de leur engagement bénévole n'ont pas été reconnus. Et là, je parle particulièrement, par exemple, des sapeurs-pompiers, dont aujourd'hui les heures de bénévolat ne sont absolument pas reconnues dans le calcul des retraites. Ça, c'est tout simplement inacceptable.
Et une dernière question, c'est par rapport au territoire de la 3e circonscription que vous avez parcouru pendant cette campagne. Est-ce que vous avez noté une certaine disparité ou alors il y a plutôt une certaine homogénéisation de la société sur tout le territoire ?
Alors, on est quand même sur des territoires qui sont très variés, des baronnies jusqu'au Royan, du Vercors jusqu'à la vallée du Divoire, et en passant par Saint-Paul-Trois-Châteaux. C'est une circonscription qui est complexe, qui est immense de ces territoires. Ce que je retrouve partout, cependant, c'est cette force, cette envie d'agir, cette envie de changement. Je vois des citoyens, des citoyennes qui s'organisent collectivement pour faire face à l'absence de l'État, qui construisent des solidarités, qui mènent des initiatives. Ici, c'est des territoires zéro chômeur. Là, c'est des initiatives pour un renouveau agricole. Là encore, c'est des initiatives pour l'environnement ou pour de la démocratie participative. Je vois aussi des associations qui se battent sur le terrain. Je pense ici notamment aux associations qui luttent contre les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, 50% des féminicides ont lieu dans les territoires ruraux, alors que seulement 30% de la population y vit. C'est un vrai enjeu de combattre cet isolement, que d'accompagner les femmes qui sont aujourd'hui victimes de violences dans la grande ruralité. Et je trouve que les associations font un travail absolument formidable, et donc il faut pouvoir les accompagner. Et enfin, ce que je vois aussi sur ce territoire, malgré toute sa variété, c'est un engagement des élus qui font un travail aussi formidable, malgré la baisse des dotations de l'État, pour pouvoir maintenir l'eau, par exemple, en régie publique, pour pouvoir agir sur le territoire. Et donc, moi, c'est l'ensemble de ce dynamisme-là, militant, associatif, politique, que j'ai envie d'accompagner dans cette élection. J'invite l'ensemble des auditrices, des auditeurs qui seraient intéressés par ce que j'ai pu raconter aujourd'hui ou par le programme que nous défendons en collectif, avec l'ensemble des forces de la Nouvelle Union Populaire, à venir sur mon site, le www.mariepochon.fr. Vous pouvez nous rejoindre. On est vraiment une force immense. On est présent partout sur le terrain. On le fait dans la joie, on le fait dans l'enthousiasme, on le fait avec beaucoup d'espoir. Et je crois qu'on a beaucoup besoin d'espoir aujourd'hui. Donc j'espère pouvoir être cette candidate-là qui pourra agréger l'ensemble de ces espoirs.
Marie Pochon, je vous remercie. Bonne soirée.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Interview.
Okay, the bird.